Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le village parking BRB, secteur Wamba, territoire de Bagata dans le Kwilu, est vidé de ses habitants depuis mardi. Ces derniers, qui en ont eu marre des tracasseries de la part des miliciens Mobondo, se sont affrontés avec ces hommes armés. Bilan, des blessés graves et plusieurs maisons incendiées par les assaillants. Le procureur général près la Cour de cassation veut poursuivre le ministre des Finances et le ministre d'État au Développement Rural. Firmin Vondé a adressé son réquisitoire depuis fin avril au bureau de l'Assemblée nationale afin d'instruire à charge Nicolas Kazadier et François Roubota. Il les accuse de détournement des deniers publics dans la surfacturation des ouvrages des forages d'eau et d'installation des lampadaires. Désiré Isseloko est notre invité. Il est le directeur général de l'Office national pour la promotion de la stabilité de la famille, ONAF. Il nous parle du rôle de la famille congolaise dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de l'apport financier du gouvernement à la promotion de la stabilité de la famille congolaise. Désiré Isseloko va s'entretenir avec Paul Matendo. Bonjour à tous. Dans la province du Kwilu, le village parking BRB, situé dans le secteur Wamba, territoire de Bagata, est pour le moment vidé de ses habitants après d'affrontements mardi entre les miliciens Mobondo et quelques habitants des milieux. On parle des blessés graves, plusieurs maisons incendiées par les assaillants et d'un déplacement massif des habitants. Information livrée par le député national élu de Bagata, Gary Sakata, et confirmée par le chef du village voisin Kimomo, Stani Libi. Ce dernier appelle à l'intervention du gouvernement. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
Ces affrontements sont la conséquence des tracasseries perpétrées par les miliciens Mobondo à la barrière érigée à l'entrée du village parking BRB. Excédée, la population a réagi en cherchant à stopper les assaillants qui ont fait incursion dans ces villages. Stani Libi est le chef du village voisin de Kimomo à Kwamund.
Les fugitifs Mobondo ont tiré de calibre 12. On a enregistré 6 blessés, entre autres l'infirmier titulaire au l'air de santé de Fankulu.
Pour sa part, le député national élu de Bagata, Gary Sakata, qui parle de deux blessés graves, exige des dispositions sécuritaires adéquates pour stopper ces violences.
Les Mobondo continuent toujours à semer la panique dans le secteur de Wamba. Ils ont incendié la moitié du village. Ils ont tiré à bout portant sur le responsable de BRB qu'ils ont grièvement blessé. Ils ont également tiré sur l'infirmier titulaire qui se trouve dans un état grave. Nous demandons au gouvernement d'instruire les militaires qui sont à Fatundu de se rendre sur les sites de conflit au moment où je parle. Tout le monde est en forêt.
D'après Martin Souta, président de la société civile de Kwamund, ces miliciens maintiennent leur position dans les villages occupés et dans les forêts à Kwamund. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Des nouvelles des fronts au Nord Kivu. Des affrontements ont opposé dans la matinée ce jeudi, le M23, à l'armée congolaise et groupes armés locaux sur plusieurs fronts dans le territoire de Rutshuru, précisément autour de Kibirizi et de la Rwindi, affirment plusieurs sources locales. Elles parlent de tentatives de l'armée congolaise de reprendre le contrôle de cet espace occupé depuis quelques mois par les rebelles. Bernard Danyangi.
Ces attaques de l'armée congolaise et ses alliés locaux ont repris ce jeudi autour de la Rwindi et Kibirizi après un autre assaut hier mercredi sur l'enclave de pêche de Vichumbi. C'est à cheval entre le groupement Kanyabayonga et Mutanda chez Fri de Buito. Les sources locales indiquent que l'armée poursuit ses tentatives de déloger les rebelles, mais les lignes ne bougent pas, reconnaissent ces sources, en raison selon elles d'une forte résistance de l'ennemi. L'intensité des tirs baisse depuis 10 heures locales autour de la Rwindi et Kibirizi, alors qu'une accalmie est observée à Vichumbi ce jeudi, précisent nos sources. Par ailleurs, un calme précaire est aussi observé ce jeudi dans le village de Kiondo, près de Nyazale, toujours dans le Buito, après une incursion de courte durée mercredi soir d'un groupe de combattants locaux. En territoire voisin de Masisi, c'est le village de Kachuga, près de Mouesso, qui a été tôt ce jeudi une autre cible d'attaque des combattants de NDC rénové de Guidon contre le 1-23. Il n'y a pas assez de détails, mais cela a provoqué entre 6h et 7h locales un déplacement de certains habitants vers Mouesso et Kalembe, indiquent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En plus bref, le nouveau commandant des opérations Sokola 1 au Grand Nord, Kivu, demande à tous les militaires qui se retrouvent dans le Grand Nord de manière irrégulière de rejoindre immédiatement les unités respectives. Dans un communiqué rendu public mercredi, le général-major Bruno Mandefou demande également à tout commandant d'une grande unité ou service de réduire sensiblement ses escortes et ces derniers doivent porter des brassards identifiant leurs unités respectives. Au sud Kivu, l'organisation Médecins sans frontières annonce la reprise de ses activités sur le terrain dans les zones de santé de la partie sud de la province. Néanmoins, MSF demande aux populations bénéficiaires de communiquer sur les questions sécuritaires le cas échéant. Médecins sans frontières était toujours en action depuis 2021, mais sans la présence physique de ses équipes à Fizi, Mwenga, Uvira et Kimbilulenge. Les zones de santé servaient de tremplin, mais aujourd'hui, l'organisation décide d'envoyer ses équipes sur le terrain selon que les conditions sécuritaires vont le permettre. Nzila Nora, chargée de communication à MSF Sud Kivu, est au micro de Jean Kassami.
C'est vrai qu'en 2020, nous avions interrompu et nous étions en réflexion pour voir comment appuyer la population parce que la finalité, même s'il y a l'insécurité, il y a la population qui a besoin de soins. Donc en 2021, l'organisation a commencé à répondre, mais à distance, en collaboration avec les bureaux centraux des zones ainsi que la communauté sur place. Maintenant, nous sommes en train d'implémenter un nouveau modèle d'intervention qu'on pourrait appeler une intervention mixte, qui inclut autant l'appui à distance que l'appui en présentiel, si et seulement si la sécurité est garantie. C'est pour ça qu'on fait un appel assez vif à la communauté du Sud Kivu, Fizi, Kamituga, Kimbilulenge, pour aider MSF à mieux les aider. Ça veut dire en signalant les questions sécuritaires, parce qu'on sait que d'habitude, la communauté est au courant des signaux sécuritaires qui peuvent mettre en danger les humanitaires ou elles-mêmes. Et en remontant ces informations, cela va permettre à MSF à mieux analyser, à mieux comprendre et savoir quand est-ce qu'il faut être sur le terrain.
Le procureur général près la Cour de cassation demande au bureau de l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre Nicolas Kazadi et François Robota, respectivement ministre des Finances et ministre d'État au développement rural. C'est depuis le 27 avril que Firmin Vondé a adressé son réquisitoire afin d'instruire à charge ces deux ministres. Il les a accusés de détournement des deniers publics dans la surfacturation des ouvrages des forages d'eau et d'installation des lampadaires. Mais quelques obstacles se dressent sur l'action du ministère public. Jeff Ngoy nous explique les faits.
Il ressort du réquisitoire qu'en date du 21 avril 2021, le ministre du Développement Rural, représenté par l'ancien ministre Guy Mikoulou, conclut avec le consortium Stever Construct Cameroun et Sarel et Sotradu Ota, représenté par Mike Kasenga, le contrat relatif aux travaux d'installation des forages et de construction des stations mobiles de traitement d'eau de capacité de 2, 5 et 10 mètres cubes l'heure. Le ministre des Finances relève que le coût retenu dans le contrat pour les forages est très élevé. Il invite alors son collègue du développement à négocier avec le consortium pour revoir cela à la baisse. Mais il se pose quelques difficultés pour mener à bien l'action du ministère public. D'abord, la compétence du bureau d'âge de l'Assemblée nationale dont le mandat est limité pour autoriser ses poursuites. Ensuite, le ministre des Finances attend depuis le 5 mai la décision du Conseil d'État en référé liberté contre l'action du ministère public, le privant de sa liberté de circuler. Si cette décision venait de lui être favorable, la dite action pourrait s'avérer des nuls effets.
Signalons que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait sollicité un rendez-vous volontairement par une lettre adressée le 9 mai au procureur général pour être auditionné sur les faits qui lui sont reprochés. Mais ce rendez-vous avait été avorté pour indisponibilité du haut magistrat instructeur de son dossier. Dans la province de la Tchopo, l'Assemblée provinciale rejette la réquisition du procureur général sollicitant l'autorisation des poursuites judiciaires à l'encontre des 13 députés provinciaux. Ils sont soupçonnés d'avoir perçu des pots de vin à quelques jours de l'élection des sénateurs et gouverneurs de province. Au cours d'une séance plénière à huis clos organisée mardi, la commission ad hoc instituée pour entendre ces députés a rendu la conclusion de son travail, conclusion qui dit qu'aucun grief n'est retenu contre eux. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo explique les raisons qui ont milité au rejet de la réquisition du procureur général. Dr Mathéus Kangalondimo est au micro de Jacques Moukonkolé.
La commission a eu à travailler en toute liberté. La commission a eu à écouter chaque député. La commission a eu à mener des investigations et a creusé par rapport au réquisitoire du procureur général pour la Cour d'appel de la Chouque. Et sa conclusion était qu'il n'y avait rien qui pouvait motiver le réquisitoire du procureur général. Il n'y avait pas d'éléments probants, il n'y avait pas de preuves tangibles par rapport aux accusations formulées à la compte des députés provinciaux. Voilà donc les conclusions qui ont été présentées à l'issue de la plénière. Les procureurs général aussi, lors du débat, avait pris la parole pour soutenir ce réquisitoire devant l'Assemblée plénière, devant les députés provinciaux. Donc. Et après, devant l'Assemblée plénière encore, chaque député a eu à présenter sa version. C'est ainsi que l'Assemblée plénière a décidé alors, après vote, de rejeter ce réquisitoire du procureur général pour la Cour d'appel de la Tchopo, et cela à sa présence lors de la plénière. Pourquoi ne pas laisser libre cours à la justice de mener des enquêtes? Non, il ne s'agit pas ici de laisser libre cours à la justice, mais il s'agit des faits, il s'agit de la procédure, du respect de la procédure. Et il s'agit nullement d'une entrave par rapport à la Cour. Non, il s'agit des règles démocratiques qui nous imposent certaines règles.
Rappelons que dans sa réquisition, le procureur général avait écrit qu'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait ses députés provinciaux en train de négocier et de percevoir des présents en vue de donner leur voix à certains candidats sénateurs et gouverneurs. En Ituri, en plus bref, si députés provinciaux sont invalidés et remplacés par d'autres par l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ituri rendu public le mardi dans une audience publique. Selon le vice-président de l'Assemblée provinciale, la commission de validation de mandat de ces députés est déjà mise en place. Une plénière est prévue le samedi prochain pour la validation de leur mandat. Adaba Masumbuko explique que c'est en prévision de l'élection des sénateurs le 24 mai qui sera précédée par la campagne électorale de lundi à mercredi la semaine prochaine. Une délégation d'hommes d'affaires marocains séjourne depuis hier à Kinshasa. C'est dans le cadre d'une mission économique marocaine organisée dans la capitale congolaise du 15 au 17 mai par l'ANAPI, Agence congolaise pour la promotion des investissements. Objectif, stimuler les investissements et promouvoir le partenariat d'affaires entre les secteurs privés de deux pays. Cynthia Bachizi Nabizana pour les détails.
Cette mission économique de 3 jours se décline en plusieurs activités, dont un forum d'affaires organisé à l'hôtel Hilton de Kinshasa, ainsi que des rencontres networking. C'est une occasion unique pour les hommes d'affaires marocains de découvrir des opportunités d'investissement offertes par la RDC. 5 secteurs clés sont visés, l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables, les infrastructures et le secteur des services. Mais aussi pour l'ANAPI, il s'agit de présenter les spécificités du marché congolais avec une meilleure compréhension des réglementations et incitations fiscales en vigueur. L'objectif pour l'ANAPI est clair, accroître la visibilité de la RDC en tant que destination d'investissement. Difficile d'avoir des chiffres actuellement sur la balance commerciale RDC-Maroc, mais de manière générale, des études démontrent que le commerce total intra-africain de biens, c'est-à-dire exportation plus importation, a diminué pour atteindre 29,3% en 2020 contre environ 54,5% en 2015. Notez que cette mission économique marocaine à Kinshasa est co-organisée par l'ambassade de la RDC au Maroc. Elle fait suite à une mission économique congolaise organisée en mars 2023 au Maroc.
Actualité internationale. 2 journalistes ont été maintenus en détention en Tunisie hier à la suite d'une série d'arrestations visant les détracteurs du gouvernement, y compris les avocats et la presse, ce qui suscite l'inquiétude des alliés internationaux du pays. De son côté, le président tunisien Kaïs Saïed a dénoncé ce jeudi comme une ingérence étrangère inacceptable, parlant de ses inquiétudes exprimées par l'Union européenne, la France et les États-Unis après cette vague d'arrestations d'avocats, de journalistes et de figures de la société civile. Le chef de l'État tunisien, qui concentre tous les pouvoirs depuis l'été 2021, a ordonné en effet au ministère des Affaires étrangères de convoquer dès que possible les ambassadeurs d'un certain nombre de pays étrangers pour leur transmettre sa vive protestation contre cette ingérence.
L'invité.
Désiré Isseloko est notre invité. Il est le directeur général de l'Office national pour la promotion de la stabilité de la famille, ONAF. Il nous parle du rôle de la famille congolaise dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de l'apport financier du gouvernement à la promotion de la stabilité de la famille congolaise. Désiré Isseloko s'entretient avec Paul Matendo.
Désiré Isseloko, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous célébrez la Journée internationale de la famille. Quel est exactement l'objectif de cette journée?
Je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez. Aujourd'hui, c'est une journée commémorative par rapport à la Déclaration des Nations Unies depuis 1994, où on a reconnu la famille comme une cellule de base, la famille comme un moteur de développement. Une journée qui nous permet de nous rapprocher pour réfléchir sur l'importance que revêt la famille. Et aujourd'hui, il était l'occasion pour lancer les messages par rapport au thème national et au thème international, comme on a dit, la famille et les actions climatiques, pour essayer de réfléchir et de donner le rôle que la famille doit jouer pour lutter contre les effets de ces liés au réchauffement climatique.
Réchauffement climatique, vous dites, quel est le rôle de la famille dans la lutte contre ces phénomènes, selon vous?
Bon, vous savez, aujourd'hui, l'environnement reste un élément protecteur, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous circulez dans la ville, province de Kinshasa, même quand vous allez partout ailleurs, vous allez voir que notre environnement ne donne pas un bon paysage. Et nous pensons que c'est à travers la famille que le message devait être consommé et relayé dans toute la société. Le réchauffement climatique aujourd'hui reste incontournable à travers les effets que nous avons vécu dernièrement sur les températures hausses. Et c'est sur base de ça que nous avons voulu, à travers les différents mots qu'on a prononcés ici, que la famille puisse capitaliser ces rôles-là, puisse cerner ces défis-là, afin d'apporter l'information auprès de la communauté pour se prévenir contre les effets liés au réchauffement climatique.
5 ans après la création de votre structure, l'ONAF, quel état de lieu faites-vous de la famille congolaise?
Et aujourd'hui, le ministre a lancé l'écriture de la politique nationale, les politiques nationales des familles, et nous sommes en train de travailler sur ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un document référentiel, n'est-ce pas? Et avec ça, il est difficile de donner aujourd'hui la photographie des familles. On ne sait pas évaluer aujourd'hui les indicateurs de la RDC en termes de la stabilité des familles, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'il n'y a pas un document de référence, aussi longtemps qu'il n'y a pas un plan stratégique, aussi longtemps que la politique pays n'est pas encore écrite, voilà aujourd'hui, on vient de nous donner ces slogans-là pour essayer d'amorcer l'écriture de la politique des familles.
Vous parlez de la photographie de la famille congolaise. Quelle est sa structure à ce jour?
La photographie de la famille aujourd'hui reste très compromettante, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des familles qui sont aujourd'hui déstabilisées pour diverses raisons, n'est-ce pas? Je ne veux pas étaler aujourd'hui. Nous avons des problèmes, mais les problèmes des successions, les problèmes des enfants mais dans la famille. Vous avez les problèmes des déplacements. Et au-delà de tout ça, nous voulons donner une autre photographie de la famille au niveau du pays. La famille doit rester en union. Nous voulons que les valeurs familiales soient restaurées. Parce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quand même une déchirure, il y a quand même un écart sur les valeurs auxquelles les familles doivent se conformer. Et aujourd'hui, nous vivons beaucoup d'événements dans la communauté. Vous avez des enfants qui ont abandonné leur famille. Ils viennent des familles. Ils sont dans la rue. Et dans la rue, ils copient certains comportements sur lesquels l'éducation reste encore biaisée. Donc aujourd'hui, nous voulons que cette unité de famille soit restaurée, que les enfants qui sont dans les familles, les parents puissent prendre leur rôle dans l'encadrement des enfants. Et aussi, le gouvernement doit jouer son rôle sur l'appui de la politique. Parce que lorsque l'organe technique du gouvernement, qui est l'ONAF, n'a pas assez de moyens pour réussir sa politique, il y a encore beaucoup de défis à relever.
Désiré Isseloko, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous tous qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin depuis 5 heures ce matin. Moi, Noëlla Luzitu Kabambi, j'étais à la présentation des éditions d'information sur Radio Okapi. La mise en onde est assurée par Jean-Claude Nsiala, tandis que Élisée Chikota Chivueta a coordonné ce journal. À 13h, Pascal Massiri Kabissimoa sera au rendez-vous pour le bulletin. En attendant, place au journal des sports avec Kaniche Mukongo Fonikizi.